le cœur de Dieu. C'est au travers de tous les messages qu'on a voulu apporter encore un peu plus la vision de Dieu, en tout cas pour la famille. Et moi, au départ, en tout cas, j'ai commencé beaucoup à parler de l'Esprit Saint, la manière dont intérieurement le Seigneur peut nous transformer, veut nous transformer, et combien il est important de lui laisser toute la place. Parce que je crois que le vrai changement qui peut s'opérer dans la famille, ce sera l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu. Et combien il est important de lui laisser toute la place, et primordial de lui laisser toute la place. Et là, du coup, j'arrive, en tout cas, vraiment dans la famille selon le cœur de Dieu. Quand je lisais simplement une famille selon le cœur de Dieu, ça veut dire tellement de choses. Le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu pour la famille? De quelle manière Dieu voit la famille? Quand je pense à la famille selon le cœur de Dieu, je pense aussi à David, qui était selon le cœur de Dieu. C'est dans 1 Samuel 13 qu'on voit que, du coup, Dieu choisit à la place de Saül un homme selon le cœur de Dieu. Et on peut voir dans le psaume 34, je vous invite à commencer à ouvrir la parole, dans le psaume 34, au verset 18, qui nous dit tout simplement « Lorsque les hommes justes lancent leur cri vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Un homme, selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui prend son refuge en Dieu. Saül, malgré qu'il avait eu l'onction de Dieu, dans la frayeur du combat, a désobéi à l'ordre de Dieu d'attendre le prophète pour le sacrifice, pour invoquer le nom de Dieu, pour avoir la directive selon Dieu. Et il a œuvré par lui-même. Et quand on voit la vie de David constamment, on voit que David, malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut se passer de difficile, lui, il avait cette pensée. C'est en Dieu que je trouverai mon refuge. C'est en lui que je veux me réfugier. Et il dit bien, ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Et l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. C'est une garantie lorsqu'on se réfugie dans les mains de Dieu qu'on accède au salut qu'il nous accorde par la puissance de son bras. Et du coup, ce matin, on va aussi détailler au travers de Josué, comme ça a été dit, la manière dont l'Éternel désire que nous puissions, en tant que famille, en tant qu'individu aussi, se réfugier en lui et en lui seul. Je vais encore prier avant de continuer. Seigneur Dieu, tu vois que ma bouche est inapte à parler en ton nom, à dire de ce que tu es, à dire quel est ton cœur, à dire toutes ces choses. De moi-même, je ne peux rien dire. Mais Seigneur, c'est pourquoi je te prie vraiment que tu puisses remplir tout simplement ma bouche, que tu puisses aussi, au travers de ta parole, que cette parole puisse prendre vie vraiment dans nos cœurs. Je te prie simplement d'être là, Père, et de nous soutenir dans tout ce que tu vas nous donner ce matin, Seigneur. Oh, vraiment, nous voulons dépendre de toi. Père, c'est vrai que c'est une prière pour tout un chacun ce matin. Seigneur, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose de toi ce matin. Ce matin, je veux recevoir quelque chose de toi. Ce matin, je veux que quelque chose change au plus profond de mon cœur. Ce matin, je désire être béni par toi. Je veux ta bénédiction ce matin. Je veux que tu ranimes, éveille-toi mon âme, réveille-toi mon âme, ce chant qui disait combien tu veux nous éveiller à toi, nous éveiller à qui tu es, pour que nous puissions, devant tout ce qui est devant nous, avoir cette victoire qui vient de toi. Ô Seigneur, vraiment soutiens-nous, Seigneur. Amen. Ouf, que la famille est belle. La famille est belle. Alors, je vois plein de familles morcelées. C'est un peu ce que l'ennemi fait, d'une manière générale. Morceler la famille, celui-là, celui-ci. Ma sœur parlait des rivalités entre frères et sœurs. Pour ceux qui ont des enfants, mais quel combat! Ah, moi ceci, moi cela. Tellement de tensions vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Alors que le Seigneur donne en bénédiction, soyez féconds. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. La famille est une bénédiction de Dieu. La famille est le premier lieu où Dieu veut manifester sa bénédiction. Il est même dit que ceux qui veulent être en responsabilité d'une église, qu'ils tiennent déjà d'abord, premièrement, correctement, leur famille. Dieu veut premièrement agir dans ta famille. Ça te permettra ensuite de savoir comment te comporter dans l'église. Car si tu n'apprends pas à pardonner dans ta famille, si tu n'apprends pas à aimer dans ta famille, si tu n'apprends pas à t'humilier dans ta famille, comment le feras-tu dans l'église de Dieu? Parce que il y a encore des... Autant dans ta famille, on va dire qu'il y a une culture qui est similaire, il y a une éducation qui œuvre. Mais dans la famille de Dieu, tu as vraiment de tout. Entre la culture des uns et des autres, entre les différences des uns et des autres, c'est quelque chose qui devient compliqué. Mais l'Esprit de Dieu nous permet d'avoir cette unité. Mais il ne faut pas s'attacher à tous ces détails. Toi, tu as une famille, enfant ou même parent. Recherche à consolider cette unité dans la famille, car tu vas avoir de grandes richesses, car Dieu veut agir au milieu de ta famille. Dieu veut que ta famille soit comme son cœur. Dieu veut répandre cet amour. L'exemple même dans le couple. Christ même prend l'exemple par rapport à l'Église. On voit bien qu'il veut œuvrer au sein de la famille. Toi qui te dis, tu es célibataire, mais tu as une famille. Tu as un frère, une sœur, tu as des parents. Il y a toujours une famille. Et travaille ce que Dieu veut dans ta famille. Donc Josué au chapitre 24, qui nous transmet ces paroles simples et courtes, au verset 15, la deuxième partie. On peut prendre directement le verset 15. Josué, chapitre 24, verset 15. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi, et ma famille ou ma maison, nous adorerons l'Éternel. Quelle parole. Moi, je me positionne. Moi, je connais Christ. J'arrête de me préoccuper. Oui, Seigneur, je veux que mes enfants ceci, je veux que ma femme, mon mari, je veux que mes parents. Toi, positionne-toi. Moi, je veux servir l'Éternel. Et parce que moi, je veux servir l'Éternel. Moi, je ne veux ne faire aucun compromis dans ma vie. Mais je veux le servir lui et lui seul. Alors, ma famille aussi sera bénie au travers de cette lumière qui va rentrer dans la famille. Oh oui, quand tu auras de l'agressivité, ton enfant va mal te parler, lorsque ton mari va mal te parler. Et cette lumière, et cette parole qui amène la lumière de Dieu. Quand le ton monte, quand l'adversité monte, plie le genou et que Dieu te donne les paroles qui amènent la lumière, qui paralysent l'agressivité. Démunis devant mes actes, je pensais avoir comme retour quelque chose de fort qui s'imbrique, qui travaille, mais non. La parole que j'ai pour toi, je t'aime, je veux te bénir. Oh, que le Seigneur nous aide vraiment, nous aide. Je reprends le contexte de Josué au chapitre 23, du verset 1 à 13. Une longue période, Josué toujours 23, 1 à 13. Une longue période s'écoula après que l'Éternel eut accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Et Josué était devenu très vieux. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit « Je suis devenu très vieux. Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Voyez, j'ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, de même que celui des nations que j'ai exterminées entre le Jourdain et la mer Méditerranée à l'ouest. L'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur. Il les fera fuir au fur et à mesure de votre avancée, et vous posséderez leur pays, comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leur Dieu. Ne prêtez pas serment par leur nom. Ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à Dieu, à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre eux en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu. Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets. Ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. J'associe à ce texte, donc juste le livre qui vient après, Juges, au chapitre 2, versets 1 à 4. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. j'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège. Et le verset 20 du même chapitre, 20 et 23. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara: « Puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'il ne m'écoute pas, désormais je ne déposséderai plus devant eux une seule des nations qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Elles me serviront à éprouver les Israélites pour voir si oui ou non ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. L'Éternel laissa donc subsister sans se presser de les déposséder ces nations qu'il n'avait pas livrées au pouvoir de Josué. » Et au chapitre 3 du même livre, verset 4, « Ces nations servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. » Souvent, je redis la même chose en reprenant l'histoire du peuple d'Israël. Et on voit vraiment cette similitude spirituelle, de toute manière, clairement, tous les parallèles qui sont faits d'une manière terrestre au travers du peuple d'Israël reflètent une réalité spirituelle concrète. Et notamment, vraiment, je revoyais, comme ça a été dit aussi au travers de Marie-Laure et de la lecture de Néhémie, combien Dieu a été bon. Même dans Josué, il a tout fait. Il a dépossédé. C'est son bras puissant. Aucun des Israélites, aucun des Hébreux pourra dire « Oui, c'est parce que j'ai fait quelque chose. » Aucun d'eux ne peut s'attribuer ce mérite. Il est clair et évident que Dieu a agi. Dieu a entendu simplement les cris, comme ça a été dit. Dieu a étendu sa main et il a pris le peuple et il lui a frayé un chemin. Il a mis des conducteurs pour les amener. Tout est grâce. Et en Jésus-Christ, on peut dire la même chose. Tout est grâce. Son sang a coulé, la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque en Jésus-Christ, son sang a coulé, il nous a lavés. Il nous a ouvert un chemin glorieux. Tout est grâce. Mais il se passe quelque chose. C'est que là, plus le peuple sort de l'Égypte, plus il se rapproche de la terre promise, plus il y a quelque chose de différent qui se passe. Le Seigneur met en face quelque chose que nous vivons actuellement. Il laisse les peuples qui sont là. Il dit, c'est à vous de vous engager dans ce combat. Moi, j'ai combattu pour vous. Moi, je vous donne la victoire. Moi, je suis celui qui va donner la victoire dans ta vie, la victoire dans ta famille, avec tout ce que tu peux vivre de difficile. Dieu est en train de te le dire. Moi, je suis celui qui t'a déjà donné la victoire, tu le sais et c'est pour ça que tu le glorifies jour après jour. C'est indiscutable. Tu l'as vécu, c'est ma grâce. Mais maintenant, toi, tu vas saisir cette victoire que je te donne pour toi et dans ta famille. Délibérément, Dieu a laissé les peuples. C'est son plan, il l'a laissé. Et comme il est dit, c'est afin de t'éprouver pour savoir qui tu veux servir. Est-ce que tu veux servir Dieu ou est-ce que tu veux servir le monde? Et c'est une question où toi-même, tu auras la réponse et où Josué insiste particulièrement après qu'il ait dit « Moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Moi, j'ai pris la décision au milieu de ce monde adultère, au milieu de ce monde qui n'arrête pas de blasphémer le nom de Dieu, dans ce monde agressif, dans ce monde où les gens courent après le plaisir. » Ce beau passage que je partageais avec mon frère Richie, ils ont préféré le plaisir plus que Dieu. Tu crois que c'est quelque chose comme ça? Dieu t'accorde des choses parce qu'il t'aime et il veut te faire plaisir. Et au lieu de te tourner et d'adorer Dieu et de le remercier pour ce qu'il fait, toi, tu vas chercher ce plaisir. Tu vas chercher ce plaisir. Mais que Dieu soit ton plaisir. Dieu seul soit ton plaisir. Josué 24, verset 19. Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. » Verset 21, « Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. » Josué reprit, « Vous êtes vous-même témoin contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, tu veux servir Dieu? Tu veux marcher? Tu veux que ta famille marche selon Dieu, selon le cœur de Dieu? Très bien. C'est ce que tu veux. C'est ce qui est dans ton cœur. » La parole parle d'elle-même. Verset 23. Ben dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Dieu nous éprouve. Il y a plein de situations dans nos vies qui nous éprouvent. Mais l'Éternel, plus que tes paroles de dire « oui, je veux servir Dieu », lui te dit « mais débarrasse-toi de ce qui prend la place dans ta vie, dans la maison ». Pour moi, c'est clair. J'ai des enfants. Du mieux que je peux, que nous pouvons, non, parce que tout passe premièrement par toi et après, ensemble. Parce qu'au moment où l'autre n'est pas en accord, où il faut que toi, tu sois ferme pour que la lumière persiste. Donc c'est bien moi, c'est pas par orgueil que je le dis, mais parce que ça commence par moi. Elle-même, elle dira pour elle-même et ensuite pour nous deux. Mes enfants parlent de quoi à la maison ? Ils me bassinent avec leurs joueurs de foot, avec tout un tas de trucs. Je suis conscient. Alors ça peut être ça, ça peut être plein de choses. Je suis conscient que dans la maison, ils ont mis, ou d'une certaine manière, on a laissé. Après, on ne contrôle pas tout dans la maison. Mais je crois que la direction qu'on donne est importante, puisque il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vois l'abondance de ce qu'ils ont dans leur bouche, que Dieu n'est pas à la première place. Tu peux constater aussi pour toi-même, à l'abondance de ce que tu parles, de ce que tu dis, où est la place de Dieu? C'est un constat. Je l'ai constaté. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Dieu, toi qui es grand, toi qui les as créés, toi qui as fait toutes ces choses-là, mais oui, mais bien sûr, Il y a qui d'autre à louer? Il y a qui d'autre à parler? On a quoi d'autre à dire que de parler de Dieu, de remercier Dieu parce qu'il m'a permis de me lever, parce qu'il me permet de me coucher, parce qu'il me donne la nourriture, parce qu'il est celui qui est la vie. Et j'entends qu'on parle d'hommes, de ceci, de consoles, de jeux, de tout un tas de trucs. Mais Dieu est digne de louange. Mais c'est clair, mes yeux le voient. Et mais combien c'est dur d'y aller. Seigneur m'invite. Alors c'est là où vraiment, c'est chacun devant ce que le Seigneur donne et la manière de le faire. Parce qu'on est dans des choses très délicates. On n'est plus sous la loi. Et il est même dit, tout m'est permis. Mais je ne serai esclave de rien. Donc, moi-même, je ne peux pas dicter ou dire, l'Esprit de Dieu le fera d'une manière juste, selon ton cœur. Parce qu'il sait même quand l'un fait l'autre quelque chose, moi je peux faire la même chose, mais c'est le cœur que Dieu voit et l'attachement qui est derrière. Donc le Seigneur parle de lui-même et il le fera si tu es disposé à lui laisser toute la place. Mais on voit bien qu'il y a de l'adversité. C'est évident que la louange doit sortir de nos cœurs pour louer Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour moi pour que je sois constamment en train de louer, de dire « ouais, ouais, ouais ». Il ne fait rien et il n'est rien et il est comme moi. Un souffle fragile. Les seigneurs laissent les orgueilleux, laissent les puissants de ce monde. Et d'un souffle, il les balaie. Monte en orgueil. Continue de croire que c'est toi. Et bam, une maladie qui arrive sur toi. Et bam, ton âme est rappelée. Et bam, ta gloire, ton orgueil est où? Ton orgueil est où? Devant Dieu, ton orgueil. Tu parles avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de force, même vis-à-vis de tes collègues, même vis-à-vis... Mais qui es-tu? Si Dieu te donne une parole forte, dis-le. Mais ne parle pas par orgueil. Ne diminue pas l'autre, ne blesse pas l'autre par tes paroles. Combien moi-même je vois avec les enfants, ils sont fragiles. Fais attention, Christophe. La manière dont tu vas parler avec eux, la manière dont tu vas être dur. Tu dois donner un cadre, mais que le Seigneur te donne du discernement. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Sème dans le Seigneur. Et tu verras l'abondance de fruits que tu vas récolter. Espère dans le Seigneur. Fais les choix qui t'incombent parce que tu sers le Seigneur et tu en récolteras les fruits. On ne va même pas se lancer dans « Ah, oui, regarde les enfants de ceci. Oui, regarde les enfants de cela. » Oh, ne rentre même pas là-dedans. Dieu fait grâce, Dieu agit. Mais toi, sois juste conscient de ce que tu fais et de ce que tu ne fais pas. Dieu bénira en son temps, Dieu agira en son temps. Et ne commence pas à t'élever en orgueil, parce que de ce qui se passe, que tu es en train de juger peut-être une famille, la même chose, le Seigneur te rattrapera et te dira, c'est ma grâce, c'est parce que tu te confies, mais c'est mon action et c'est moi seul. Donc, aie ce regard. Ne commence pas à te dire, ah, oui, je vois les enfants de celui-ci, oui, ont l'air bien, celui-là, moins bien, c'est parce que. Non. Mais notre responsabilité, chacun d'entre nous ce matin, est de dire oui à Dieu et je me débarrasse de tout ce qui ne vient pas de lui. Car ce qui reste dans ta maison, ce qui reste, mais c'est tellement dur, mais c'est un chemin tellement dur, ce n'est pas un chemin facile. Même David l'a dit, le juste passera par beaucoup de tribulations. C'est un chemin dur, c'est pourquoi même Josué dit, vous ne serez pas capable. Tu as négligé la chose. Tu l'as négligé. Tu t'es prêté à cette grâce de Dieu, à son abondance de... Tu as focalisé uniquement tes yeux là-dessus. Mais Dieu t'appelle et te dit, mais maintenant, comment tu te positionnes? Parce que ces choses qui sont dans ta maison, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu te dit simplement, mais ça, ce sera un piège pour toi. Ça, c'est des choses qui vont causer du tort dans ta maison. Ce n'est pas juste pour... Non, c'est pour ton âme. C'est ça qui crée le trouble. Ce n'est pas moi, Dieu, qui crée le trouble dans ta maison. Tu ne crois sûrement pas ça. Non, mais c'est que il y a certains choix que tu n'as pas faits. Et il y a des choses encore dans ta maison que tu dois jeter, que tu dois balayer. Mais il te rappelle encore que ce n'est pas un engagement d'un jour. Oui, oui, ils l'ont dit. Hein. Et ils sont retombés. Mûris-le dans la prière. Mûris-le avec les frères et sœurs de ta maison. Mets-le dans la prière. Que ça soit une vraie décision que le Seigneur soumit à l'Esprit de Dieu. Et après, tu auras le bénéfice. Ne cours pas parce que quelqu'un t'a dit ceci, cela. Prends le temps dans la prière. Consulte Dieu. Dieu va mettre en lumière ce qui prend la place dans ta maison. Prie-le, il te montrera. On pourrait citer tellement de choses, mais le Seigneur, je suis convaincu qu'il te parle et qu'il te montre. Parce que si le Seigneur met à cœur de parler de ces choses-là, c'est parce qu'il veut. Il veut bénir ta maison. Mais Dieu veut bénir ta maison. Tu es tellement désespéré. Tu en doutes maintenant. Tu en doutes. Mais le Seigneur veut bénir ta maison. Cela commence par toi. Josué, qui a prononcé ces paroles que peut-être ce matin tu veux prononcer, oui, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. J'ai choisi d'inculquer, comme a dit Kamal, j'ai choisi de donner cette dynamique, j'ai choisi que la lumière rentre dans ma maison et je vais être le premier témoin, je vais être celui qui apporte, je vais être celui qui se remet en question, je vais être celui qui s'humilie, je vais être celui qui me met à genoux, je vais être celui qui pleure pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma famille. Nombre 13, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 13, verset 16. On va découvrir certains aspects de Josué. 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshéa, fils de Noun, le nom de Josué. Alors moi, je sais que j'avais sûrement lu ça il y a très longtemps, ça nous a été rappelé, que Josué n'était pas le nom de Josué d'origine, mais qu'il lui a été donné le nom de Josué. Josué. Hoshéa qui veut dire « salut » et Josué, Yeshua, en hébreu c'est vraiment le même nom que Jésus, l'Éternel sauve. Est-ce que ton nom a été changé ? Hoshéa sauve, oui, je sauve, ou je ne sais pas, il n'y a pas le « je », mais en tout cas, on s'attend plus à quelqu'un, en tout cas, qui sauve. Voilà. Mais Moïse rectifie la chose. Là, on va rentrer dans des choses spirituelles. Tu vas rentrer dans des combats. Donc déjà, première chose, ton nom. Ton nom, ton identité, tu ne t'appuies déjà plus sur toi-même. Et sur toi, sur tes propres forces pour accéder à un quelconque sauvetage. Mais déjà, tu recadres tout là. C'est l'Éternel sauve. Pour moi, en tout cas, c'est un élément important. L'Éternel sauve. Ensuite, on voit dans Exode, Genèse, Exode, chapitre 17. Josué est un homme de Dieu qui rentre dans le combat. 17, verset 8. Donc, ils étaient dans l'approche, en tout cas, de la terre promise. Ils n'étaient pas dedans. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Ok. Tu as compris qu'il faut dépendre de l'Éternel. Là, on a une adversité, il y a une attaque qui arrive. Ben allez, Josué. Tu fais quoi, Josué? Vas-y. Oh. Franchement, des fois, on plaisante avec les écrits, on lit l'histoire. Mais quand des gens viennent, quand des gens viennent pour t'attaquer, c'est pas pour s'amuser avec toi et te faire des câlins. Non, mais hey, le cœur, quand tu sens un peu d'adversité, ton cœur, là, tu te sens même où? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, devant beaucoup de personnes qui, comme si c'était tourné vers moi, tu es comme vidé. Tu te sens, ah ouais. Mais là, il te dit, va. Jésus. Et il dit quelque chose de magnifique. Moi, je me tiendrai au sommet avec le bâton de Dieu à la main. Amen. Tu n'as pas le courage. Mais moi, je te demande, t'y vas. C'est difficile, mais vas-y. Jésus intercède pour nous. Si tu y vas, si tu mets le pied, le Seigneur va te surprendre. Mais tu dois y aller. Exode 24, verset 13, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là, je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne. Et on a aussi Exode 33, merci Marie, 33, verset 9. C'est parce que c'est elle qui a mené une petite réflexion pour se dire, mais qu'est-ce que Josué fait là? Au verset 9, Exode 33, verset 9, dès qu'il pénétrait la colonne de nuée, donc dans la tente de la rencontre, dans le tabernacle, l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, restait dans la tente. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, ce qu'on sait et ce qu'on voit, il aime être dans la présence de Dieu. Il aime être là où ça se passe, là où Dieu est. Et on va continuer avec Nombre, qu'on a vu tout à l'heure, Exode, Lévitique, Nombre, chapitre 14, verset 4. Là, c'est le rapport avant de rentrer dans la terre promise. Josué et Caleb, du coup, ont rapporté les choses qu'ils ont vues de manière à ce qu'ils puissent entrer. Et là, il est dit, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc tellement le peuple était stressé devant l'adversité, ils voulaient avoir un autre chef. Ils disent, mais non, on ne rentrera pas là-dedans. C'est le carnage assuré, il ne va rien se passer, on va tout perdre. Venez, on trouve quelqu'un pour faire de mes tours. Et il est même dit au verset 10, toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre. Ça veut dire que, en fin de compte, tellement ils étaient devant quelque chose de difficile, non, on n'ira pas. On n'aura rien de la part de l'Éternel. Non, on fait demi-tour. Vous arrêtez avec vos trucs d'aller là, d'avoir la victoire, de ceci, cela. Vous arrêtez avec ça. On fait demi-tour. Et il est dit, verset 4, verset 5, « Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté, « Le pays que nous avons parcouru est exploré, et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous le donnera, ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Quatre choses. Josué, son nom a été changé. Ce n'est plus toi maintenant. Tu dépends de l'Éternel. C'est l'Éternel qui sauve. Est-ce que cela est ancré en toi? Est-ce que quand tu es dans l'adversité, dans la difficulté, c'est l'Éternel qui va être ton refuge? Parce que c'est l'Éternel qui te sauvera. Lui et lui seul. Première chose. Est-ce que tu entres dans le combat? Est-ce que tu es plutôt timoré ou est-ce que tu rentres dans le combat sachant que Dieu veut te donner la victoire? Tu vois une adversité devant. Tu as fait quelques prières. Où es-tu dans, on l'a vu hier, persévérer, en tout cas être vigilant à maintenir une prière constante, que ta persévérance, voilà, merci, que ta persévérance soit alimenté de la prière et veille-y avec persévérance, enfin, veille-y avec assiduité. C'était Colossiens, c'est ça? Trois. Bon. Mais en tout cas, voilà, ta persévérance doit se faire dans la prière. Tu as vu la difficulté? Tu n'es pas rentré au combat. Tu as jeté deux, trois prières en haut. Est-ce que tu as plié le genou et tu es rentré dans le combat? Est-ce que tu as combattu? Est-ce que tu es de celles qui combattent pour ta famille? Qui combattent. Combattre, c'est pas juste... Non, combattre, c'est mettre le genou à terre. C'est prier pendant la nuit, pendant que tes enfants dorment. Tellement tu es attristé, tellement tu vois la manière dont l'ennemi met des pièges, combien il détruit ton couple, combien il détruit les relations entre les enfants. C'est ça, rentrer dans le combat. C'est à genoux. Mais tu ne rentres pas dans le combat. Tu pries comme ça. Rentre dans le combat. Je parle pour moi-même. Je ne suis pas un homme de prière comme j'aimerais l'être. Mais de Dieu vienne le vouloir et le faire. Dieu ne donne pas le vouloir et le faire et tombe comme ça. C'est auprès de lui que tu recherches le vouloir et le faire. Si tu ne veux pas faire, Dieu ne va pas t'imposer le faire. Non, mais auprès de lui est le vouloir et le faire. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à me lever aussitôt que j'aimerais. Mais lui va me donner le faire. Mais il faut que je le recherche auprès de lui. Rentre dans le combat, tu n'auras aucune victoire sans ça. Si tu ne comptes pas sur l'Éternel, si tu ne mènes pas le combat, tu n'auras aucune victoire. Demeures-tu dans la présence? C'est ce qui a été dit et c'est ce que je redis. Est-ce que tu demeures dans la présence? Parce que quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu es proche de lui, ton regard va être différent. Ils voulaient tous partir. Ils voyaient ces gens grands et tu vois les choses devant toi qui sont grandes, mais ces choses sont petites devant Dieu. Si tu as le regard spirituel, tu écrases toutes ces choses. Il n'y a aucun souci. On dit tout le temps, Dieu est puissant. Mais Dieu va le faire pour toi. Ne doute pas de ça. Mais où te tiens-tu? Tu es à côté? Ou est-ce que tu es dans la présence de Dieu? C'est Dieu qui va ouvrir ton cœur. C'est lui qui va ouvrir tes yeux. C'est lui qui va te permettre de voir et de voir qui tu es avec les yeux de Dieu sur ta vie. Tu es puissant. L'Esprit de Dieu en toi est puissant. Tu es un homme, une femme, d'une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Mais ta puissance est en Dieu. et en Dieu seul. Mais tu es puissant. Ne doute pas de ça. Tu es une femme puissante. Enfant, toi qui te donnes à Christ, tu es un enfant puissant. Parce que le Dieu que nous servons est puissant. Et que l'Esprit qu'il a mis en nous est l'Esprit de Dieu. Comment pourrait-il être faible? Comment pourrait-il être affaibli? Comment pourrait-il mettre en nous du trouble ou du doute? Non, l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu, connaît tout ce qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Moi et ma famille, nous servirons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme je l'ai dit et je le redis, ça commence par toi. Dieu t'appelle à être cette lumière, avec tout ce qui a été dit par rapport à Josué. Et si tu veux, si le Seigneur te met d'autres choses à cœur, partage-le aussi aux frères et sœurs, mais ça commence par toi. Ne t'attends pas, ne cherche pas après les autres, c'est toi. Des décisions. Tu dois prendre des décisions. Pour toi, pour ta famille. Dans la concertation, dans la dépendance de ce que Dieu veut pour toi. Je ne vais rien cibler ce matin parce que je demande vraiment, et ce sera notre prière pour tout un chacun. Seigneur, montre-moi quels sont les dieux. La troisième chose, pour couper ce cycle, j'ai un chant qui, en anglais qui m'interpelle, qui dit que il y a une puissance dans le nom de Jésus, bon, ça vous connaissez, mais il le reprend pour dire, pour couper tous les cycles. Ça veut dire que des fois nos familles tournent dans les mêmes choses, et en fin de compte, de génération en génération, ça reste quelque chose qui est là, comme un cycle qui vient, qui revient, qui est là. Et Jésus a le pouvoir de briser ce cycle et de pouvoir sortir de cela. Je vais clôturer avec le psaume 101. Je rappelle aussi au passage que tous ces peuples qui ont été exterminés pour laisser la place au peuple d'Israël, c'était des peuples qui faisaient des abominations devant Dieu, et Dieu a mis son jugement à exécution. Il a utilisé le peuple pour le faire. Mais beaucoup d'abominations. Et beaucoup d'abominations se font encore actuellement. Ça monte, on va dire, en intensité. Psaume 101 qui nous dit « Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la justice, ô Éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi ? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront sur moi aucune prise. Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir des malfaisants. Celui qui calomnie son compagnon, médisant en secret, je le ferai taire. Je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi, et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui se sert de fraude, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Amen. Cette révélation, en tout cas de David, est vraiment claire. Ce psaume dépeint bien vraiment tout. Rien de mauvais devant mes yeux. Ce que tu regardes a un impact sur toi, sur ta famille. Tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais finir par la prière. Seigneur Dieu, ta parole a été annoncée le plus simplement possible. Ta parole a été annoncée comme toi tu l'avais prévu, Seigneur. Mais derrière cette attitude, en tout cas, sereine, parce que nous nous attendons à toi pour ton œuvre. Je te prie, Seigneur, de bousculer. Je te prie, Seigneur, de parler. Je te prie, Seigneur, de ne pas laisser tranquille. Je te prie, Seigneur, que tu tapes à nos cœurs, Seigneur. Que tu tapes fort sur nos cœurs, Seigneur. Pour nous rappeler ce que tu désires pour nous, pour nos familles. Seigneur, que nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison entière ne te sert peut-être pas. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, tu m'envoies, alors j'irai. Seigneur Dieu, vraiment, je suis tellement dur, toutes ces paroles. Et Seigneur, moi-même qui l'ai dit, combien maintenant je dois aussi me mettre en action. Seigneur, je veux le faire, Seigneur. Nous voulons le faire aussi, en tant que communauté. Seigneur, donne-nous la force de le faire, Seigneur. Merci parce que auprès de toi est la force. Nous voulons puiser, nous voulons nous fortifier en toi, puiser notre force, notre secours en toi, Seigneur. Oh Papa, je te prie vraiment que tu puisses agir et que ta gloire puisse resplendir dans nos familles, quelles que soient les difficultés. Je te bénis et que toute ta bénédiction se déverse sur nous en cette matinée. Alléluia.